Le cinéma fait partie intégrante de votre inspiration. J'ai vu que pour préparer le spectacle, vous aviez rencontré José Luis Alcaíne, qui est un grand chef opérateur, collaborateur fidèle de Pedro Almodóvar. Puis il y a tout juste 2 jours, à Avignon, j'ai découvert en avant-première Conan, qui est le nouveau film de Bertrand Mandico, avec Lina Lovenson, un chien, qu'on va retrouver à Boulbon. Et d'ailleurs, vous êtes crédité dans les remerciements, dans le générique de fin. Et c'est vrai que quand on connaît bien l'univers de Mandico et qu'on voit l'univers de Jérôme Bosch, il y a des analogies évidentes. Est-ce que ça vous a nourri? Est-ce que vous en avez parlé avec Mandico? Et qu'est-ce que vous avez demandé à Alcaïne?
C'est une question belle, parce que c'est vrai que souvent dans les pièces, pour les préparer, je côtoie des amis ou des nouvelles personnalités. Alors, pour parler dans l'ordre, le chef opérateur de Pedro Almodóvar, c'est une rencontre à Madrid, parce que j'ai joué en tournée la semaine où on est allé visiter le tableau. Et il avait souhaité qu'on se rencontre, parce que c'est un immense fan du tableau. Il n'a jamais réussi à convaincre Almodóvar de faire un film d'après Jérôme Bosch. Et en plus, je pense qu'en Espagne, c'est dur d'y toucher. C'est un peu... comme en France, on a certaines peintures un peu comme ça, difficiles à traiter. Mais ça a été une très belle rencontre. Il m'a parlé de sa passion pour le tableau. C'est un grand collectionneur des livres qui tournent autour de cette peinture, où je l'ai rencontré comme un passionné. Ça a ouvert les premières discussions d'ailleurs sur une lecture qu'il a de la toile, très intéressante. Parce que c'est vrai que Jérôme Bosch était un grand artiste, mais c'est sans doute inspiré de troupes aussi théâtrales qu'il y avait à l'époque. Ça, c'était une discussion plutôt à bâton rompu avec José Luis, mais qui était passionnant sur le rapport des mystères du Moyen-Âge, du fait que les peintres aussi peignaient d'après des troupes de théâtre. Et c'est pas rare qu'on retrouve des figures presque chorégraphiques de Jérôme Bosch qu'on retrouve chez d'autres peintres, parce qu'il se peut que des artistes de théâtre posaient pour les peintres. Et ça, c'est très intéressant. Et puis, il y a une deuxième chose qui le passionnait, c'était son rapport justement au cinéma, un média évidemment dont il est un brillant chef opérateur, mais il se sent justement victime de la profondeur de champ et de tout ce qu'au cinéma, on ne peut pas faire comme les gens de théâtre qui multiplient les points de vue. On avait parlé de ça avec lui. Et Mandico, on est devenu amis lorsque je lui ai proposé à Nanterre, pour ma dernière saison, qui hélas n'a pas eu lieu puisqu'il y avait la pandémie, de mettre en scène au théâtre une adaptation de Conan le Barbare, qui était devenu Conan la Barbare. C'est un cinéma extrêmement nourri de mondes, justement, oniriques, plastiques. J'aime son cinéma dans cette liberté, justement, d'y inventer des mondes remplis de créatures et de récits. Aussi très nourri d'un certain cinéma de genre, de la bande dessinée, de métal hurlant et de dimensions aussi artisanales et plastiques qui mènent presque entre Georges Méliès et Fellini. Il y a une chose chez Mandico très belle. Et puis j'étais très curieux et fasciné du type de jeu que Lina Lovenson apporte aussi dans ses films. Elle avait vu La Mélancolie des Dragons il y a longtemps et elle s'était aussi imaginé, m'avait-elle dit, que si jamais elle revenait de temps en temps du théâtre, pourquoi pas plutôt dans ce genre d'univers. Donc naturellement, oui, on avait participé à la production de Conan à Nanterre, qui a été mémorable, toute la grande salle, et en plus c'était le dernier projet que la grande salle soit détruite, et Bertrand avait étalé tous ces énormes décors comme ça, de roches, quasiment une carrière Boulbon d'ailleurs, remplis de pierres, avec tous ces acteurs qui habitaient dans le théâtre des Amandiers, il y avait même des scènes dans les toilettes historiques de Chéreau, et ça a nourri le long métrage. Il en prépare aussi une autre version, je crois pour Locarno, à partir vraiment d'un autre film dans un autre format qui sera aussi presque la mise en scène théâtrale qui est entièrement tournée à Nanterre, qui va sortir en parallèle de Conan. Donc c'est des amitiés d'artistes et de compagnons de route comme ça, comme j'en ai aussi d'autres dans d'autres arts plastiques ou de la musique. J'aime beaucoup qu'il y ait des connivences entre nos univers. Et Lina Lovenson, je suis réjoui qu'elle rejoigne la famille d'acteurs du Vivarium Studio, toujours là avec moi depuis 20 ans, comme Gaëtan Wurch ou Sébastien Jacobs, qui était déjà acteur dans La Démangeaison des ailes. Et j'aime bien cette aventure, c'est un peu comme dans les tours... où ces fermiers justement artistiques se côtoient. Il y a une collégialité au bon sens du mot qui se déploie d'année en année. Et Elina nous rejoint, ainsi que Thierry Reynaud, un acteur familier du travail d'Hubert Cola, mais qui est très habité aussi de nos spectacles, ou Isabelle Prime, qui est aussi par ailleurs réalisatrice, monteuse de cinéma et actrice. Et puis des acteurs plus embarqués dans les aventures récentes de La Nuit des Taupes à Femme Fatale, que sont Léo Gobin, Jean-Charles Dumais ou Nuno Lucas, qui est un acteur portugais, mais... qui a beaucoup travaillé avec Max Stewart et qui a aussi tout un rapport comme ça de corporalité et d'occupation des sols et venu de la danse, que je trouve formidable. Et c'est une équipe de 8, comme souvent, qui va être en voyage dans cette carrière, qui va atterrir, comme disait Bruno Latour, où atterrir, ça c'est la question permanente au théâtre. Et on a la chance d'atterrir à la carrière Boulbon. Et puis ensuite, ça nous emmènera à l'Acropole d'Athènes, ce qui est quand même aussi un site complètement dingue.
Vous avez choisi des lieux quand même très très forts.
Je ne sais pas que j'ai choisi, c'est qu'on a eu la chance, je ne sais pas pourquoi, de me proposer quand même des endroits chargés de théâtre. Parce qu'ici, à la carrière, ce que j'ai oublié de mentionner, c'est que c'est rempli de fantômes. Depuis qu'on y répète, c'est délirant, on pense, pendant toutes les 5 minutes. Alors tout le monde ici, au village, me demande comment va Peter Brook. C'est un site incroyable, parce que finalement, au-delà de cette aventure... qu'il a été effectivement une carrière de pierre, et même s'il fait penser à un site presque d'un ancien théâtre préhistorique, voire gréco-romain, on a surtout l'héritage aussi de travailler sur une terre qui a été habitée depuis Paul Delbono, de Peter Brook, de Jérôme Savary, de Bartabas, et que tous les matins, j'ai l'impression qu'ici, quelqu'un dans le village me demande si j'ai croisé un cheval de Bartabas, si je me souviens des processions de Pippo Delbono ou des talonnettes résonnantes de Israël Galvan sur un bout de praticable. Et c'est vrai que c'est quand même fascinant. C'est-à-dire que vous n'avez pas ça à travers le monde. Certains théâtres ont une charge et une âme, et les grands artistes ont laissé des traces, mais la plupart du temps, ce n'est pas aussi fort. Et je pense même qu'il n'y a pas autant de mémoire, même si vous travaillez à l'Odéon, au Théâtre de la Ville, ou d'entre grands théâtres où j'ai la chance de jouer à Berlin ou à l'étranger. Et j'avoue que j'ai rarement eu ce sentiment où les gens m'interrogent sur mon rapport aux fantômes de mes prédécesseurs. Et je me demande même si ce n'est pas plus fort que le Palais des Papes dans le, évidemment, de la puissance tellurique de ce site, puisqu'il n'y a pas d'architecture, il n'y a pas de fenêtres, il n'y a pas de remparts.
Justement, depuis que vous êtes là, parce que vous avez répété à la Fabrica, vous avez répété dans différents lieux, maintenant ça y est, vous êtes sur place.
Oui.
Puis vous avez tout, vous avez le Mistral, vous avez les orages, vous avez maintenant, il fait très chaud. Est-ce qu'il bouge le spectacle? Parce que moi, il y a une chose qui m'intrigue beaucoup quand même, c'est que les spectacles que j'ai vus de vous, c'était au Célestin, c'était à Aubanel, c'était sur l'autre scène. Ça faisait toujours penser à Coris Maki, c'est-à-dire une sorte de minimalisme, une lenteur, un humour très sous-jacent, très mélancolique. Là, non seulement le tableau de Jérôme Bosch, sur tout le volet central, c'est débordant, c'est foisonnant. Et là, vous avez un espace à occuper.
Oui, tout à fait. Et en même temps, j'ai souvent occupé des sites relativement larges, très panoramiques. Le Swamp Club, effectivement, a été un faux rapport au jardin extérieur, parce qu'il y avait à Veden cette dimension de paysage, de marécage, de grotte même. Il y avait les prémices un peu de situation qu'on retrouve à Boulbon d'ailleurs, de multiplicité des points de vue, de s'installer, d'oser se poser dans un lieu. J'ai souvent tourné à travers le monde la mélancolie des dragons en perdant cette petite voiture au milieu de nulle part dans ce grand champ enneigé. Moi, j'aime bien l'infiniment petit dans le grand, en fait. Je ne sais pas comment dire. Il y a effectivement cette délicatesse. Je suis très touché que vous parliez de Coris Maki, parce que c'est évidemment un grand modèle, un grand artiste qui m'a beaucoup nourri en voyant ses films, comme je pourrais parler aussi de Fellini, qui souvent trouvait une manière extrêmement fantastique de traiter le hors-champ, la vie des équipes techniques. Dans Intervista, qui est un film préféré, on voit aussi un jeu à la fois incarné des acteurs. Et chez Coris Maki, bah, évidemment, il y a ce minimalisme empli de gravité, de l'époque, de gens de milieux sociaux, parfois fragiles, qui habitent comme ça notre Europe, tentant de cet humour pince sans rire extrêmement inspirant. Bon, ben, vous n'allez pas être déçus, parce que je pense que le début, c'est aussi avec grande délicatesse que j'ai envie de me réapproprier. Vous disiez réouvrir Boulbon, ben justement, ça ne va pas être forcément l'idée d'un grand cérémonial. C'est déjà fou, si vous voulez, de poser de nouveau un pas sur Boulbon. Là, je fais une blague avec le pas sur la Lune, mais quand même, je me suis dit, est-ce que je ne commencerai pas le spectacle vide, voilà. Parce que le site lui-même, quand il est vide, il est plus fou que n'importe quelle débauche de décor. Et lorsque vous enlevez les éléments, il me semble, j'ai hâte de voir le 6 juillet, que les gens aient sous les yeux cet endroit et que le temps d'un instant, parce qu'en plus les entrées publiques à Avignon sont longues, vous avez quand même un site en général sous les yeux 30 minutes, le temps que vous vous asseyez. Donc je vous dirais que le premier personnage principal de la pièce, c'est la carrière, tellement elle est hallucinante, vraiment, à regarder. Et si vous en dégagez le paysage, comme c'est l'idée dans l'option scénographique du début, il n'y a rien. Il y a évidemment un gradin complètement fou, dystopique, de 1200 places posées au milieu de cet endroit, en plus gardienné par un certain nombre de brigades de pompiers, on dirait un de mes spectacles. Et évidemment, on va arriver dans cet endroit, mais j'essaie d'y aller et de reposer les pieds délicatement, comme pour être effectivement, pour revenir à Coris Maki, certaines scènes dans des terrains vagues, certaines manières aussi dans la banlieue de Rome, quand Fellini installait une petite bagnole qui arrivait, qui déposait trois techniciens, deux, trois acteurs, qu'en 8,5, on se rend compte que Fellini a osé déployer des gens dans un paysage avec peu d'éléments, ou ce cinéma des années 70, qui me renvoie aussi au tableau. Le tableau, il a été inspirant aussi pour des gens après 68, il a souvent servi d'imagerie pour illustrer des festivals, un peu de Woodstock ou autre paradis, justement, alors que moi, je ne le vois plus du tout un délice ni un rapport à la sexualité aussi libre qu'on l'imagine. Pour moi, je vois un tableau central, pour revenir à votre question, extrêmement figé, malgré les courses de chevaux. Je vois une série de modèles vivants à l'arrêt. Je ne vois pas tellement de mouvement malgré les vastes courses d'animaux qu'il y propose et des gens qui se baignent. Je vois une espèce d'image du monde arrêtée, comme avant une catastrophe nucléaire ou après, ou juste après. Je vois un inventaire d'une humanité en papier découpé, posé comme ça, comme un monde à préserver, peut-être dans une arche de Noé. Je vois des gens prêts à envahir une navette spatiale pour vite s'échapper avec toutes les espèces animales et végétales de la planète pour aller vite s'installer une communauté. Et j'avais envie de faire sonner la pièce. Je reviens là-dessus, je fais des... Excusez-moi, je passe du coq à l'âne, mais c'est une bonne expression pour Bosch. Non, c'est, je le vois en même temps que je vous parle, parce que je suis en train de répéter. Je me dis, ah oui, ça y est, telle scène. Vous m'amenez à me dire, ah non, attendez, l'autobus... Parce que j'arrive, en fait, à ce que je vois de la peinture, aussi du recto. Qui est extrêmement gris, qui est très aride, qui est donc la genèse. Hein. Vous repliez le triptyque et vous avez finalement...
Oui, c'est une pièce qui est à l'intérieur. Vraiment.
Non, c'est délirant, c'est complètement c'est un effet théâtral fantastique. C'est-à-dire que si on considère la peinture, il y a avant tout, et elle était exposée comme ça chez les commanditaires, le dos refermé, cette grande boule grise qui est notre petite planète, extrêmement dérisoire, peinte par Bosch, c'est presque la partie du tableau que je préfère, cette espèce de lande avant que Dieu décide d'amener de l'eau, pour reprendre le thème évidemment biblique que Bosch dépeint. C'est-à-dire que vous avez ce globe transparent, coupé en deux par cette espèce de surface marécageuse desquelles émergent deux, trois rochers avant que les plantes et l'eau arrivent sur Terre, mais c'est dément comme terme de scénographie, et on a presque une couleur qui éclate uniquement lorsque vous ouvrez la toile, ce qui est un grand effet théâtral de la part de Bosch, qui a composé cet envers comme un rideau de théâtre avant que la vie, en tout cas une apparente vie, se mette à l'intérieur. Ça veut aussi dire là-dedans que l'artiste, il a aussi les couleurs pour enchanter le monde ou pour ouvrir un imaginaire, autant que Dieu, si j'ose cet exemple, c'est que finalement il se met au même niveau que j'ai l'impression qu'un créateur de l'univers. C'est-à-dire qu'il se dit, bon bah j'ouvre la page grise et je vous dépeins une communauté humaine, animale et végétale parce que j'ai la couleur, j'ai la puissance de la rêverie, j'ai de quoi inventer des nouveaux mondes avec des châteaux forts bleus, roses, verts. Bon, dans cette voie-là, j'y vais plus modestement et j'adore ce rapport d'échelle. Pour revenir à la question initiale, il y a quelques phrases. C'est cette échelle délicate que je cherche, comme toujours. Je ne crois pas qu'on peut des fois faire du grandiose sans prendre le temps. Ça ne veut pas dire que je n'essaye pas de composer des images, d'ailleurs on pourrait qualifier de cinématographiques, je ne sais pas très bien ce que ça veut dire, parce que je pense que le théâtre, des fois, compose des images qui restent plus que certains films. Et d'ailleurs, du théâtre, souvent, depuis la nuit des temps, il reste des photos. Les photos immortalisent les spectacles. Je voyais encore l'historique des pièces de Boulbon qui circulent là, sous forme presque de carousel diapositive sur le site du festival. On revoit les grands spectacles. Personne ne se rappelle vraiment des séquences. Il reste 3-4 photos emblématiques. Parce que quand je regarde les images de Peter Brook, qui sont dans tous les livres de théâtre, il y a une image avec cette communauté habillée plutôt de lin et de couleurs claires qui marche sur cette crête qui existe encore aujourd'hui, là, la crête de pierre. J'adore ces espèces de légendes. Cette légende qui fait que de Bartabas, il reste une photo... où on nous dit, la légende nous dit qu'elle était la nuit, la légende nous dit qu'il y avait une tour d'échafaudage, qu'il y était avec ses chevaux. Je trouve ça formidable dans l'art théâtral.